Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, elle met en avant ce qu'elle appelle son expérience et sa sensibilité sociale face à un Zemmour provoquant et sans plus-value. Marine Le Pen trace sa route de candidate malgré les doutes. Elle était ce matin au sommet de l'élevage. Rendez-vous de beaucoup de candidats. Reportage dans un instant. 44 euros le test PCR, 22 à 30 euros l'antigénique. Voilà ce que devront payer les adultes non vaccinés sans ordonnance à partir du 15 octobre. Sixième journée de mobilisation des sages-femmes depuis le début de l'année. Salaire, statut, formation. Elles décrivent un malaise profond. Au fond, à 13h30, notre invité représente l'un des principaux syndicats. Toutes vos questions et témoignages sur ce métier de sage-femme dès maintenant, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Confinement, télétravail, livraison, comment la crise sanitaire a modifié nos habitudes à l'heure du déjeuner? Les horaires de déjeuner sont devenus très élastiques.
C'est vrai qu'on est amené à servir des pâtes, des pizzas à 16h, 17h, 18h jusqu'au service du soir.
Les derniers détails de l'étude à ce sujet avec Agnès Soubiran. Dans l'actualité encore, vers une journée d'hommage à Samuel Paty dans tous les établissements scolaires le 15 octobre, un an après son assassinat. Des travaux d'intérêt généraux plutôt que l'exclusion du collège ou lycée pour les élèves qui ont dépassé les limites, c'est en test dans le Gard. Belle affiche, France-Belgique, ce soir, en demi-finale de la Ligue des Nations de football, toutes les stars sont là. Et puis vos rendez-vous d'ici à 14h, le vif de l'histoire, une nouvelle biographie de celle qui a été deux fois reine de France, Anne de Bretagne. Et nous écouterons Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Marine Le Pen peut-elle relancer sa campagne? L'irruption du toujours pas officiellement candidat Éric Zemmour, entre autres choses, jette un doute sur sa présence au second tour de la présidentielle l'année prochaine. Le Rassemblement National reste aussi sur un échec aux élections régionales et départementales. Hier, Marine Le Pen mettait une nouvelle proposition sur la table en pleine flambée des tarifs de l'énergie. La baisse de 20 à 5,5% de la TVA sur l'essence, le gaz et l'électricité, qu'elle appelle un choc de pouvoir d'achat. Et ce matin, la leader du RN a fait, comme beaucoup de candidats, un tour dans un lieu très fréquenté en ce moment. Quand la campagne bat son plein, il y a le salon de l'agriculture à Paris. Pour la pré-campagne, il y a le sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. C'est là que vous êtes. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
En direct avec Nicolas Mathias, vous avez suivi la visite de Marine Le Pen ce matin.
Oui, avec un premier arrêt ce matin au stand des secouristes, atelier massage cardiaque pour candidate en manque de souffle.
Je suis là pour sauver le peuple français, j'essaie de sauver au moins le mannequin qui est sous mes mains.
Le mannequin sauvé, direction les stands. Marine Le Pen admire les vaches, elles sont calmes dans la tempête. Un calme qu'elle aussi revendique malgré la déroute sondagière.
L'élection présidentielle a lieu dans 200 jours, si vous voulez. Cette espèce de folie qui vient de saisir nos médias avec deux sondages par jour qui disent tout et l'inverse de tout et jamais la même chose les uns les autres, c'est pas raisonnable. Voilà. Il faut laisser la campagne se dérouler.
Dérouler la campagne et le programme ici sur le pouvoir d'achat, faire économiser 200 euros par mois à chaque foyer, promet Marine Le Pen, qui, malgré son calme, finit par interpeller Éric Zemmour.
Moi, je viens de dire à Éric, écoute, Éric, maintenant, il faut que tu sois candidat. C'est une question aussi un peu de loyauté vis-à-vis des Français, un peu d'honnêteté politique.
Pour l'instant, il n'y a ni candidat, ni projet et aucune plus-value, égratigne Marine Le Pen. Dans son dos, deux adhérents RN soupirent. Nous, on aimerait bien que Zemmour et Le Pen s'entendent. Sinon, ce sera nous, la droite, la plus bête du monde.
Élodie Forêt, en direct du salon de l'élevage de Cournon d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme avec Nicolas Mathias. Cet après-midi, Michel Barnier passera lui aussi à ce sommet de l'élevage, également attendu à Hidalgo. Hier, c'était Xavier Bertrand et Fabien Roussel et demain, Valérie Pécresse. L'épidémie de Covid continue de régresser. 7000 personnes hospitalisées, 1250 en soins critiques en France. Taux d'incidence moyen au plan national sous le seuil d'alerte des 50. Le gouvernement tire les conséquences. Dans 21 départements supplémentaires à partir de lundi, le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles élémentaires pour les élèves CP-CM2. Cela fait donc 68 départements en tout, une majorité donc. La carte est sur franceinter.fr. Près de 50 500 000 Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Et à partir de vendredi prochain, le 15 octobre, les tests pour ceux qui ne sont pas vaccinés deviendront payants. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Question simple, combien vont-ils coûter?
Alors il vous en coûtera 44 euros, 43,89 euros exactement pour un test PCR en laboratoire, 22 euros si le test en laboratoire est un test antigénique. Mais dans les faits, les labos font essentiellement du PCR. En pharmacie, ce même test antigénique coûtera 25 euros et même 30 euros si on veut veut le faire un dimanche ou un jour férié. Enfin, les autotests vendus 5,20€ en pharmacie n'étaient pas remboursés. Ils l'étaient seulement quand le pharmacien supervisait l'opération. Ça pouvait concerner des personnes qui ne supportent pas le prélèvement nasopharyngé. Il en coûtait alors près de 13€ à l'assurance maladie. Cette gratuité disparaît aussi s'il s'agit d'un test de confort pour les non-vaccinés.
Cela concerne les majeurs non-vaccinés sans ordonnance, mais les tests, Véronique, resteront gratuits pour une série de Français.
Oui, gratuité toujours pour les personnes vaccinées. Il suffira d'en montrer la preuve, son certificat de vaccination, dépistage gratuit aussi pour tous les cas contacts signalés par l'assurance maladie, pour les mineurs aussi. Pour les autres, il faudra passer à la caisse avec quand même une exception, un non-vacciné qui a des symptômes et qui dispose d'une ordonnance de moins de 48 heures, même adressée par mail après une téléconsultation. Le nombre de tests réalisés chaque semaine devrait clairement marquer le pas. Petit rappel, le remboursement de ces tests a coûté en tout 5 milliards d'euros cette année à l'assurance maladie. On en fait encore 3,5 millions chaque semaine.
Si 75% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin, en Guadeloupe, le taux est de 30% seulement. Et les anti-vaccins sont très virulents. La directrice de l'agence de santé en Guadeloupe dénonce des actes de sabotage dans plusieurs établissements de santé. Huile de vidange dans les bureaux, colle dans les serrures et autres actes malveillants. L'actualité médicale, c'est aussi une nouvelle journée de mobilisation des sages-femmes. C'est la 6e depuis le début de l'année. Hausse des salaires, formation plus longue, changement de statut. Les revendications sont très nombreuses dans ce métier à 97% féminin. 23 500 sages-femmes en France. La manifestation la plus importante est à Paris. Elle est montée à Paris. Amina Zerouki, qui travaille à l'hôpital de la Conception à Marseille. Pour elle, au-delà du manque de moyens, c'est la place même des femmes qui est dégradée dans la société.
Nos conditions de travail, c'est de travailler déjà 12 heures par jour, nuit et jour. On alterne dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles, de moins en moins de personnel et de plus en plus d'exigences. Une qualité de travail qui doit aller en s'accroissant. Et malheureusement, il faut du temps. Et le temps, ça veut dire du personnel. Être profession médicale, avoir fait 5 ans d'études et commencer à 1 800 €, je mets au défi n'importe quelle profession d'accepter ça. Ce n'est pas possible. On est une profession qui s'adresse aux femmes avant tout, et à la famille, et aux couples, et aux futurs enfants. J'ai malheureusement peur que le mépris qu'on nous montre, c'est aussi quelque part le mépris qu'on montre aux femmes dans cette société.
Un propos recueilli par Benjamin Mathieu. En quoi consiste le métier de sage-femme aujourd'hui? Comment peut-il évoluer? À 13h30, Caroline Combeau, la secrétaire générale de l'Organisation nationale des syndicats de sage-femmes, est notre invitée. J'attends maintenant toutes vos questions et témoignages. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Avant de reprendre le cours de ce journal, une dernière minute. Le prix Nobel de littérature à un Africain. Ça n'est que la 5e fois dans l'histoire du Nobel qu'un Africain est sacré. C'est un Tanzanien cette année qui s'appelle Abdul Razak Gourna. Ilana Mourioussef nous donne plus de détails tout à l'heure. On parlait de la santé. Quand elle fait défaut et que l'on vit avec un handicap, eh bien la solidarité nationale joue. Depuis 1975 existe l'allocation adulte handicapé, 904 € par mois maximum. Elle est versée sur critères sociaux évidemment, mais aussi médicaux, et c'est le revenu de tout le foyer qui est pris en compte. Autrement dit, si votre compagne ou compagnon gagne bien sa vie, eh bien, vous pouvez ne pas avoir droit à cette allocation. C'est ce qu'on appelle la conjugalisation. Et c'est ce que veut changer l'opposition avec une proposition de loi de la droite en débat aujourd'hui à l'Assemblée et qui met d'accord à peu près toute l'opposition. Le handicap, on le porte seul. On doit donc recevoir individuellement l'allocation indépendamment des revenus de son conjoint, estime l'opposition. Certains renoncent à une union sur le plan légal pour continuer à toucher cette allocation. La majorité refuse le changement au nom du coût, 600 millions, et d'un principe, c'est toute la protection sociale qui est fondée sur la solidarité familiale. Alors qu'en disent les principaux concernés? Patrice Tripoteau est le directeur général adjoint d'APF France Handicap, l'une des associations qui appelle à cette déconjugalisation.
Si le gouvernement est gêné, c'est parce qu'il reste sur une posture, idéologique, c'est-à-dire en prime d'abord la solidarité familiale. Hier, c'était la journée des aidants. On a bien vu déjà comment le handicap, combien ça pesait sur la vie d'un couple et puis sur l'aidant. Alors en plus, si on rajoute des conditions financières, mais même si on est marié avec une personne aisée, je veux dire que la personne en situation de handicap doit avoir son autonomie financière et pas être dépendante de qui que ce soit. Mais il faut rappeler que le défenseur des droits, le Conseil national consultatif des droits de l'homme, l'ONU même récemment, donc invite la France à modifier sa position et de déconjugaliser l'AAH.
Un propos recueilli par nos confrères de France Info. Le coût de cette allocation donc en débat. Cela dit, ces dernières semaines, Emmanuel Macron a multiplié les annonces pour Marseille, pour la santé mentale, les travailleurs indépendants, les policiers. Et la semaine prochaine, on attend le plan d'investissement France 2030. Comment tout cela sera-t-il financé, ces sujets de controverse? Il se trouve que les nouvelles économiques sont bonnes. L'INSEE l'a encore confirmé hier. Taux de chômage attendu sous les 8% d'ici à la fin de l'année, 7,6%. Au plus bas depuis 2008, si l'on excepte l'année dernière très particulière. Plus de 500 000 créations d'emplois salariés attendues cette année, toujours selon l'INSEE, prévision de croissance au-delà des 6%. Dans le vert également, l'investissement des entreprises, la consommation se tient sans être éclatante. Et tout cela, Delphine Simon, eh bien, fait des rentrées fiscales bien plus élevées qu'attendues.
On le pressentait, mais les documents budgétaires que vient de publier Bercy le confirment. Avec la reprise économique, 6% cette année, les caisses de l'État se remplissent plus vite que prévu. L'impôt sur les sociétés rapporte 5,5 milliards d'euros en plus. C'est près de 7 milliards pour la TVA, environ 4 milliards d'euros d'impôt sur le revenu supplémentaire. Quant aux successions, elles vont apporter à l'État un bonus d'un milliard d'euros. On va donc repasser cette année la barre des 300 milliards d'euros de recettes, une première depuis 2018. Même topo si on regarde du côté des recettes non fiscales, les amendes de l'autorité de la concurrence ou les quotas carbone. Des recettes en plus qui expliquent sans doute la facilité de dépense d'Emmanuel Macron en cette rentrée. L'an prochain, les recettes fiscales vont d'ailleurs continuer de grimper vu la croissance attendue, 4%, mais pas question de parler de cagnotte car la dette aussi continue de grimper.
Et oui, et la zone d'ombre dans ce tableau, c'est l'inflation. En prévision de l'INSEE, 2,3% en octobre, au-delà des 2% la hausse des prix jusqu'en décembre selon l'Institut, principalement à cause de la hausse des prix de l'énergie. Ce n'est pas un hasard si Marine Le Pen lance l'offensive de ce côté. Il se trouve qu'hier a été une journée très agitée sur le marché du gaz. Les prix européens ont bondi de 35% une partie de la journée avant de retomber. Ils restaient hier soir à des niveaux 5 fois plus importants qu'il y a 6 mois. Et il y a de la géopolitique sous les cartes. Un expert pour y voir plus clair, Thomas Pellerin-Carlin, chercheur et directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Flambée du gaz parce que la demande augmente très fortement avec la reprise mondiale post-Covid. Est-ce que la Russie ferme un peu les vannes pour faire grimper les prix ?
Alors je ne dirais pas que la Russie ferme les vannes. Gazprom, qui est l'entreprise d'État russe qui fournit du gaz notamment aux Européens, respecte l'intégralité de ses contrats. Donc il n'y a aucun acte illégal qui est fait à ce stade. Ce qu'on voit par contre, c'est que la Russie pourrait ouvrir plus les vannes. Elle fait le choix pour l'instant de ne pas le faire, même s'il y a eu des annonces positives de Vladimir Poutine hier. Et là-dessus, je pense qu'il faut d'abord y voir en fait une stratégie économique, puisque du coup, pour Gazprom, le fait que les prix du gaz soient très élevés lui permet en fait de faire énormément de profits.
Et l'Union européenne et donc la France sont très dépendantes de la Russie pour le gaz, il faut le rappeler.
Alors oui, tout à fait. Il y a environ un tiers du gaz consommé dans l'Union européenne qui vient de la Russie, donc c'est une dépendance significative, un tiers. Vraiment, le rôle clé de la Russie, c'est que c'est le seul acteur qui peut véritablement augmenter massivement les exportations de gaz vers l'Union européenne. Il y a d'autres acteurs qui pourraient être mobilisés là-dessus, et notamment les États-Unis, puisque les États-Unis nous avaient promis, sous le mandat de Donald Trump, de nous envoyer ce qu'ils appelaient du « freedom gas », donc le gaz de la liberté, par du coup du gaz naturel liquéfié. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce gaz-là, les entreprises américaines l'envoient en Asie et pas en Europe.
Pour lutter contre cette hausse du prix du gaz, Thomas Pellerin-Carlin, qu'est-ce qui relève des États européens pris isolément et de l'Union européenne? Que peuvent-ils faire chacun?
Alors ce que les États peuvent faire et doivent faire, c'est de vraiment gérer, ou plutôt d'agir, sur l'urgence sociale et humaine. Donc là, ce qu'ils peuvent faire, c'est baisser les prix d'énergie s'ils le souhaitent, par exemple en baissant la TVA, comme l'a fait le gouvernement espagnol. Ils peuvent subventionner la consommation d'énergie, comme l'a fait de manière très modeste et très limitée le gouvernement français, avec l'augmentation de 100 euros du chèque énergie qui est reçu par 6 millions de ménages en France. Et enfin, les États peuvent aussi augmenter les aides sociales. Donc là, on sort un peu du domaine de l'énergie. Par exemple, augmenter l'allocation pour le logement de manière à faire en sorte que les gens aient de l'argent pour payer leurs factures de chauffage cet hiver. Alors, pour ce qui relève de l'Union européenne, oui. L'Union européenne, elle peut agir surtout sur le moyen terme. À court terme, elle peut agir diplomatiquement avec la Russie, avec les États-Unis pour avoir plus de gaz qui arrive en Europe et faire baisser les prix. Mais là où elle a vraiment le plus de pouvoir, c'est sur le moyen terme pour favoriser la rénovation des bâtiments, l'installation de pompes à chaleur, de chauffe-eau solaire, qui sont les seules véritables solutions viables en fait pour nous sortir d'une crise des prix du gaz. Il faut en fait sortir des énergies fossiles.
Bruxelles doit en dire plus la semaine prochaine, le 13 octobre. Il y a également un sommet de l'Union européenne les 21 et 22 octobre. Est-ce que l'idée d'un achat groupé, à la manière de ce qui s'est passé pour les vaccins, peut progresser dans les semaines à venir ?
Oui, tout à fait. Cette idée d'achat groupé de gaz, c'est une idée que nous, l'Institut Jacques Delors, on porte depuis 2010. Même pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est le contexte et le fait que cette idée-là est maintenant par plusieurs pays, des pays importants, notamment l'Espagne et l'Italie. Et là, maintenant, du coup, la question, c'est de voir combien de pays peuvent se rallier à ça. Ouais. Quelle va être la position de la France aussi, de l'Allemagne ?
On va arrêter cet entretien, Thomas Pellerin-Carlin. La liaison n'est plus correcte. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous, chercheur et directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, à propos de ce prix du gaz et de ce que peut faire l'Union européenne. Je vous en parlais il y a quelques minutes. Le prix Nobel de littérature a été attribué. Le nom a été donné il y a vraiment quelques minutes. Et pour la cinquième fois seulement dans l'histoire du Nobel depuis 1901, c'est un Africain qui reçoit ce prix. Il est tanzanien, né à Zanzibar. Il s'appelle Abdul Razak Gourna. Guillaume Singal le connaît bien. Il est maître de conférence à l'université de Tours.
C'est un écrivain romancier principalement, mais essayiste aussi, tanzanien, qui est représentatif d'un courant en Afrique de l'Est, anglophone en l'occurrence, très intéressant, qui essaie de s'intéresser à l'histoire coloniale et postcoloniale d'une manière qui essaie de prendre en compte la pluralité d'expériences dans cette ère, et notamment un de ses romans les plus connus, Paradise, qui fait partie des romans traduits en français, sous le même titre d'ailleurs, ou quasiment, Paradis, qui est un texte qui essaie de regarder aussi un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau de Zanzibar, au niveau de la Tanzanie, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc c'est un écrivain qui écrit des romans, j'ai envie de dire, tout à fait lisibles d'une manière classique et non informée, mais qui se nourrit d'un terreau extrêmement riche, d'un point de vue historique, d'un point de vue postcolonial. Et moi je suis très heureux de cette annonce, qui n'était pas forcément tout à fait attendue, mais c'est un immense écrivain, donc c'est tout à fait mérité.
L'universitaire Guillaume Singal avec Ilana Mourioussef à propos de ce prix Nobel de littérature 2021 attribué au Tanzanien Abdul Razak Gourna. La France reste le pays qui a obtenu le plus de lauréats du prix Nobel de littérature avec 15. Nous étions en Europe il y a un instant avec notre invité. L'actualité de l'Europe, c'est aussi l'un de ses dirigeants visé par une enquête pour corruption. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz, qui gouverne aujourd'hui avec les écologistes après avoir dirigé le pays aux côtés de l'extrême droite, enquête qu'il vise lui et son parti conservateur. France Inter à Vienne, Isorias.
Le parquet anticorruption soupçonne que de l'argent public ait été utilisé au profit de l'EFAOP, le parti conservateur. Entre 2016 et 2018, le ministère des Finances, alors aux mains du parti, aurait financé des sondages favorables à Sébastien Kurz afin de servir ses ambitions. Sondages parfois manipulés, selon le parquet. Ces enquêtes d'opinion et des articles élogieux auraient été publiés dans un groupe de médias en échange de paiements. Le parquet ne le cite pas, mais la presse a identifié le groupe Österreich, propriétaire d'un populaire tabloïd du même nom. Les personnes soupçonnées qui ont à ce jour réagi ni les accusations, dont le chancelier Sébastien Kurz qui s'est exprimé hier soir.
Les accusations sont dirigées contre des collaborateurs du ministère des Finances. Il faut d'abord voir si elles sont exactes, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je devrais être responsable de cela. Je ne vois pas pourquoi je devrais toujours être coupable de chaque injustice.
Tous les regards se tournent désormais vers les Verts qui dirigent le pays avec les conservateurs. Les écologistes vont consulter les autres partis et décideront s'ils peuvent ou non continuer à gouverner avec Sébastien Kurz. Vianney Isorias, France Inter.
Et communiqué ces dernières heures du vice-chancelier écologiste, il écrit que l'impression que donne cette affaire est dévastatrice. Les faits doivent être pleinement établis. Dans le nord-ouest de l'Europe, à Calais, Grande-Synthe et dans la région, on estime que plus d'un millier de personnes vivent toujours entre zones boisées, entrepôts et ponts pour essayer de passer en Grande-Bretagne. Et ce matin, Human Rights Watch publie un rapport sur le traitement qui leur seraient réservés par policiers et gendarmes français. Traitement dégradant, estime l'Organisation de défense des droits de l'homme. Écoutez Bénédicte Jeannerot, c'est la directrice France de Human Rights Watch.
Les autorités françaises se livrent à la confiscation et la destruction de tentes, de sacs de couchage, de bâches, que les forces de police se livrent à un harcèlement quasi quotidien des personnes migrantes, que les autorités imposent des restrictions sur l'aide humanitaire, sur l'accès à l'eau et sur l'accès à la nourriture. Et si l'objectif est de dissuader les migrants de se rendre dans le nord de la France, ces politiques sont un échec flagrant. Non seulement ces pratiques agressives sont profondément abusives, mais en plus elles ne découragent pas les nouvelles arrivées, elles ne réduisent pas les traversées irrégulières et dangereuses de la Manche, qui connaissent au contraire un pic depuis le début de l'année et qui ne cessent d'augmenter depuis 2 ou 3 ans. En revanche, ces pratiques plongent les migrants dans la détresse et les exposent à de graves abus.
Un propos recueilli par Thibault Lefebvre. Il y aura vendredi de la semaine prochaine, le 15 octobre, un hommage dans tous les établissements scolaires à Samuel Paty. On sera à la veille du premier anniversaire de son assassinat au professeur de collège qui est mort à Conflans-Sainte-Honorine. Note du ministère qui donne cette information ce matin. Les écoles et établissements pourront organiser un temps de recueillement et consacrer un temps de cours et d'échange à la mémoire de Samuel Paty. Est-ce que réaliser des travaux d'intérêt général ou suivre une audience au tribunal correctionnel peut permettre à des collégiens violents ou particulièrement irrespectueux de retrouver le droit chemin. Bref, des mesures alternatives au renvoi de l'établissement pour ces élèves. L'expérience est tentée dans le Gard. C'est une convention entre l'éducation nationale et la police. Hervé Salafranc, France Bleu Gard-Lozère.
Responsabiliser les élèves au lieu de les sanctionner, Marois, élève de première, trouve ça plutôt bien, à condition que ça marche.
D'un côté, c'est bien parce que l'élève le prend comme leçon. Et d'un autre côté, il va le faire et après, c'est comme s'il avait rien fait. Et il va recommencer les mêmes bêtises.
Mais pour ceux qui veulent vraiment jouer le jeu, oui, ça peut être utile.
C'est comme un exemple qu'il faut arrêter et après, ça peut aider à prendre conscience et les refaire un peu grandir.
Léane, elle aussi, préfère la prévention.
Je pense que les enfants comme ça, ils ont eu un manque d'éducation, ils n'ont pas les mêmes codes que nous et ça peut être pas mal pour eux. C'est mieux que les virer directement, c'est pas les arranger du tout. Et qu'ils grandissent un peu, puis il faut qu'ils retiennent la leçon, que l'école c'est bien pour eux quoi.
Pour Béatrice, maman d'un élève de 5e, pas de doute, c'est une bonne idée.
C'est très très bien parce qu'au moins ils ne traîneraient pas dans la rue, voilà, ils ne feraient pas de bêtises en plus. Ça les éduquerait, ça leur ferait penser que si on fait des bêtises, eh bien, on paye derrière. C'est une punition, mais bon, une punition qui leur montre que pour leur avenir ce n'est que du bon. Et de retenir la leçon, parce que ce n'est pas la même chose, donc bon. Je pense que pour eux, c'est très positif.
Et de toute façon, c'est mieux que l'exclusion.
Les virer, ça sert à rien. Hein. Pour faire quoi après ?
Reportage Hervé Salafranc, France Bleu, Gare Lozère. Le secret de la confession au-dessus des lois de la République. Les propos du président de la conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort, hier chez nos confrères de France Info, jettent la controverse après la remise du rapport sur les abus au sein de l'Église depuis 1950. Monseigneur de Moulin-Beaufort, convoqué, on l'apprend à l'instant, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en début de semaine prochaine. Nous étions tout à l'heure au Salon de l'élevage. La semaine prochaine à Paris, salon de la restauration rapide. En quoi la crise alimentaire a-t-elle modifié nos habitudes à l'heure du déjeuner ? En particulier, bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Dans ce secteur études à l'appui, Agnès, on suit ces évolutions de très près. Quelle tendance ?
Alors, premier constat, Bruno, la restauration rapide a beaucoup moins souffert de la crise sanitaire que la restauration classique et continue d'ailleurs à se développer avec près de 49 000 points de vente en France aujourd'hui contre 44 000 en 2019. Parce que télétravailler ne veut pas forcément dire manger du fait maison. Les commandes sur Internet et les livraisons ont augmenté de plus de 30% entre 2019 et 2020. Et surtout, souligne Nicolas Nouchi, auteur de l'étude CHD Expert, les consommateurs ont appris à varier les plaisirs.
Le principe, c'est un consommateur qui n'a jamais eu autant de solutions, qui est volatile et qui, par essence, alterne en fonction des budgets, en fonction des types de restauration et puis en fonction du plaisir qu'il a envie de se donner à chaque jour de son travail. Un jour, il va dépenser en restauration à table plus de 30 euros. Le lendemain, il va faire une économie un peu plus significative, mais toujours en se faisant plaisir dans une boulangerie-pâtisserie. Le surlendemain midi, il préparera sa gamelle pour compenser tout ça.
Autre bouleversement, une frontière qui s'estompe entre restauration rapide et restauration classique, puisque 60% des restaurants classiques font désormais de la vente à emporter et offrent un service en continu. C'est le cas de Fabien de Peretti, dit Trattoria Rambuteau à Paris.
C'est dommage de fermer son restaurant à 14h30, 15h si derrière il y a de la demande. C'est vrai qu'on est amené à servir des pâtes, des pizzas à 16h, 17h, 18h jusqu'au service du soir.
Et de leur côté, les boulangeries, les supermarchés ont multiplié les petits coins repas. Alors, que mange-t-on en restauration rapide? Eh bien, un, des sandwichs. Les boulangeries étant restées ouvertes pendant la crise sanitaire, le sandwich a regagné du terrain. En deux, des salades et en trois, des burgers pour un panier moyen de 10,70 €.
C'est noté. Ça ne donne pas grand appétit. Les Marseillais n'en sortent pas des odeurs de poubelle et de détritus. La grève des éboueurs n'est pas totalement finie. Cela se voit et se sent dans les rues. Et après les orages de lundi, la saleté a envahi le bord de mer. Alors, la métropole prend une décision rare, réquisition des éboueurs à partir d'aujourd'hui. France Inter à Marseille, Cyril Ardo.
Dans les rues de Marseille, les traces de la grève sont encore bien visibles. Certaines poubelles débordent. Lucille a 22 ans.
J'ai les poubelles juste devant ma porte d'entrée. Elles sont plus hautes que moi, quoi. Donc on les a vues s'accumuler. Et encore ce matin, là, je traverse la route, je veux passer à côté d'une poubelle pour aller sur le trottoir et je peux pas parce qu'il y a une barrière de poubelles devant moi.
La réquisition des éboueurs est saluée par la municipalité qui réclamait cette décision depuis plusieurs jours. Christine Juste, l'adjointe en charge de la propreté.
Il y a une question de sécurité sanitaire, d'hygiène. On semble quand même, je vous le rappelle, en période de crise sanitaire. Donc je dis enfin, mais je dis pas forcément ouf parce que en fait, il aurait fallu que cela intervienne beaucoup plus tôt.
Le maire de Marseille, Benoît Payan, veut que la ville récupère la collecte des déchets, une compétence pour le moment de la métropole. Il a même écrit à Emmanuel Macron. Côté CGT, on s'indigne de ces réquisitions. Véronique Dolo, la coordinatrice du syndicat, dénonce une atteinte au droit de grève.
Les grévistes ne sont pas des voyous. Ils peuvent que déplorer qu'on les contraigne de retourner au travail. Aucun d'entre eux n'a choisi cette filière-là pour la beauté du métier. Ils ont choisi cette filière-là parce qu'en effet, avec la pénibilité, ça leur permettait d'avoir un salaire de fonctionnaire un peu plus élevé qu'une secrétaire.
La dernière réquisition de ce type remontait à 2010 dans une ville régulièrement affectée par des grèves d'éboueurs. À Marseille, Cyril Ardo, France Inter.
Ce n'est pas l'Euro ni la Coupe du Monde, mais c'est un titre international avec des affiches prestigieuses à la clé. L'équipe de France de football dispute ce soir la demi-finale de la Ligue des Nations face à la Belgique. Le match se déroule à Turin, ce qui ne peut que renforcer l'envie de l'entraîneur des Bleus, Didier Deschamps, de briller, parce que Turin, c'est une ville à laquelle il est très lié, Maxime Fayol.
Il considère Turin comme sa deuxième maison. Didier Deschamps a passé 5 saisons sur le terrain à la Juventus entre 1994 et 1999. Il y remporte 3 titres de champion et une Ligue des Champions. Avec le costume d'entraîneur, il fait remonter le club en Serie A en 2006-2007. Le sélectionneur n'en garde que des bons souvenirs.
Ça a été un moment merveilleux pour moi, où j'ai trouvé tout ce que je voulais, j'attendais dans le football de haut niveau. Ça part de tout ce qui est l'exigence au quotidien et malgré tout aussi un cadre de vie, un esprit familial. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais retourner là-bas.
L'Italie est à l'époque la première expérience à l'étranger pour le jeune Deschamps, 25 ans lorsqu'il débarque à Turin. Il découvre alors un pays avec une vraie culture du football.
Ça fait partie de la vie des Italiens. Beaucoup de passion, parfois exacerbée. Il n'y a pas que des bons côtés aussi, mais voilà, ils vivent à fond. Ça fait partie quasiment de leur religion, le football. Et omniprésent dans leur vie.
Et après Turin, ce soir, Didier Deschamps aimerait sûrement continuer son voyage italien par Milan pour y disputer la finale de la Ligue des Nations.
Le cas échéant, ce sera dimanche soir contre l'Espagne. En cas de défaite, dimanche après-midi, l'Italie. Le coup d'envoi ce soir, c'est à 20h45. Dans un instant, la météo, puis l'invité du 13-14.
Alors, j'ai déjà raté le dernier train, l'anniversaire de ma mère, le permis 3 fois, des entretiens d'embauche. Mais il y a une chose que je veux surtout pas rater, c'est la promo du moment pour mon énergie.
Ça tombe bien. Du 26 septembre au 9 octobre, vous avez jusqu'à 100 € de remise avec l'offre ELEC, gaz ou duo référence 2 ans d'Engie. Appelez vite le 3101, service et appel gratuit. J'agis avec Engie. Voir conditions sur particulier.engie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 € hors taxes par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
Bonjour, c'est Sidonie Bonnec. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont besoin de vous pour vaincre les épidémies, les infections, les cancers.
Avec Radio France, plus de 15 radios se mobilisent à leur côté. Pour le progrès et pour l'avenir de tous, défendons la recherche. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci.
3620, service gratuit plus prix appel.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
L'après-midi sera ensoleillé.
Oui, effectivement, avec le retour des hautes pressions, le soleil va s'imposer dans la plupart des régions, excepté quand même près des côtes de la Manche, où vous conserverez un ciel nuageux. À noter tout de même le développement de nuages bourgeonnants mais inoffensifs entre l'Auvergne, le Lyonnais et le Jura. La tramontane va souffler jusqu'à 60 km/h dans son domaine. Le Mistral sera aussi de la partie avec des rafales comprises entre 60 et 80 km/h. Et puis en Corse, le ciel sera plus variable, avec un petit risque d'averses passagères. Côté température, les maximales évolueront entre 15 et 24 degrés du nord au sud. On attend 15 à Besançon, 16 à Dijon et Lyon, comptez 18 à Paris, 20 à Toulouse, 21 à Bordeaux, 23 à Nice. Et puis on ira jusqu'à 24 degrés à Ajaccio.
Jean-Pierre Hameau, Météo France, tout de suite l'invité du 13-14.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
C'est le plus beau métier du monde, dit-on. Pourtant, les 23 500 sages-femmes de France, des femmes à 97%, sont appelées à la grève aujourd'hui. Depuis le début de l'année, c'est la sixième journée de mobilisation. Salaire, formation, statut, les sages-femmes demandent des changements à tous les étages. C'est un malaise profond qui s'exprime dans cette profession. Un récent rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales propose un statut sur mesure pour ces professionnels au carrefour des professions médicales et paramédicales. Ça ne les satisfait pas, pas plus que la hausse de salaire promise pour le mois de janvier par le ministre de la Santé. Alors d'où vient ce malaise? Quelles revendications? En quoi consiste aujourd'hui le métier de sage-femme? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir pour vos questions. Notre invitée est Caroline Combeau. Bonjour Caroline Combeau.
Bonjour Bruno, merci de m'accueillir.
Je vous en prie, secrétaire générale adjointe de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, l'un des principaux syndicats. Si vous le voulez bien, on va tout de suite aller dans la manifestation parisienne, rejoindre Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous exercez en libéral dans l'Est de la France. Alors d'abord, est-ce qu'il y a du monde à la manifestation?
Oui, il y a du monde et il y a de l'ambiance. Ça chante, ça bouge et ça fait plaisir à voir.
Pourquoi vous êtes à cette manifestation?
Les sages-femmes de toutes les régions de France se sont déplacées aujourd'hui à Paris pour crier leur colère et leur demande de reconnaissance.
Dites-nous pourquoi vous êtes en colère. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette manifestation?
Alors, ce qui fait que je suis dans cette manifestation déjà, c'est que je suis sage-femme depuis plus de 35 ans, que ce statut médical qui est le nôtre depuis plus d'un siècle n'est toujours pas reconnu par les pouvoirs publics parce qu'on nous en demande toujours plus. On nous demande de remplacer bien souvent les médecins sans nous en donner les moyens. Et la colère gronde, ce manque de moyens et cette injustice par rapport au traitement des différentes professions de santé est devenue trop criante.
Merci Catherine pour ce témoignage. Caroline Combeau, commençons par là puisque Catherine nous y incite. Le statut, alors la sage-femme, est-ce que c'est une profession médicale ou paramédicale et quel statut demandez-vous?
Oui, la profession de sage-femme est une profession médicale depuis 1803, donc ça oui. fait très longtemps, qui nous permet d'avoir les pleines compétences en matière d'accompagnement des femmes dans un premier temps. C'était les femmes enceintes, mais depuis quelques années, effectivement, notre champ de compétences s'est élargi, avec maintenant, depuis 2009, la possibilité d'accompagner les femmes tout au long de leur vie génésique, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la reproduction.
Oui.
Et donc depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Donc c'est une profession médicale, les juges le savent très bien, quand il y a des soucis, ils savent nous reconnaître en ce sens. Hélas, dans notre organisation des soins, dans la gestion des sages-femmes, notamment à l'hôpital, les sages-femmes sont gérées aux côtés des paramédicaux, donc oui. au sein de la fonction publique hospitalière, ce qui ne nous permet pas, si vous voulez, de pouvoir être en adéquation avec notre code de déontologie, c'est-à-dire que en matière de formation continue, on a des moyens qui sont nettement insuffisants. Maintenant, de plus en plus de sages-femmes s'orientent vers la recherche. Nous avons aussi les enseignantes pour lesquelles ce statut n'est absolument pas adapté. Voilà. Et donc nous, la demande que nous portons à l'ONSSF, c'est de rejoindre les autres professions médicales à l'hôpital, que sont les dentistes, les médecins, et puis en plus des médicaux. médicaux, les pharmaciens, donc dans un statut qui nous semble plus adapté aux obligations dues à notre rôle médical d'accompagnement des femmes.
Pour que les choses soient claires, c'est aussi une question de salaire. Qui dit statut différent dit rémunération différente, Caroline Combeau.
Alors nous, dans notre syndicat, nous ne nous sommes pas clairement exprimés à propos du salaire, puisque notre principale demande est effectivement d'obtenir un statut qui soit adapté. Et ensuite, effectivement, on sera amené à discuter des salaires. En fait, il y a souvent une confusion qui est faite. On parle du statut de praticien hospitalier. Oui. Le praticien hospitalier, c'est un titre. Nous, on n'a jamais demandé le titre. On a demandé le statut. À partir du moment où on sera géré de la même façon, on est tout à fait d'accord pour avoir un titre de sage-femme des hôpitaux avec une grille salariale qui sera adapté. Et en fait, cette question du salaire, effectivement, c'est ce qui est ressorti de nos échanges avec le ministère et une demande des sages-femmes, mais elle est englobée dans un tout qui est de redonner de l'attractivité à la profession avant tout.
La hausse de salaire promise, c'est 183 euros ou c'est 360, comme nous l'a dit ce matin le gouvernement quand on a préparé cette émission. Quel est le chiffre qui vous a été annoncé pour janvier? Et puis on retourne au standard.
Oui, alors effectivement, c'est 365 en tout, c'est-à-dire il y a les 183 euros qui ont été obtenus par les agents de la fonction publique hospitalière dans le cadre des mesures du Ségur de la santé. Et à cela, le ministre nous a annoncé mi-septembre ajouter une revalorisation avec une prime spécifique sage-femme de 100 euros net par mois et ensuite une augmentation moyenne de 82 euros par mois pour les sages-femmes hospitalières. Donc ça fait un total de 360 euros. Effectivement, c'est une augmentation très importante, mais pour nous, elle n'est pas suffisante pour apporter l'attractivité à la profession. Ce n'est pas une question que de salaire, si vous voulez.
C'est bien.
Il y a une question de mal-être, d'effectif, et on pourra y revenir.
Clémence, au standard. Bonjour, Clémence.
Oui, bonjour.
Vous exercez en milieu rural, je crois.
Exactement. En libéral et en milieu rural, après 15 ans passés à l'hôpital.
Racontez-nous en quoi consiste votre métier. Que faites-vous, vous, sage-femme, en milieu rural?
Eh bien, milieu rural, on nous a rajouté énormément de compétences ces dernières années. Nous sommes devenus vraiment le nouveau gynécologue médical d'avant. C'est-à-dire que nous effectuons tout ce qui va être suivi gynécologique, donc au sens large, le frottis, la palpation des seins, et puis aussi le dépistage de pathologies. À partir de 11 ans, c'est la première consultation d'information et de contraception. Et même au-delà de la ménopause, hein, jusqu'à 65 ans, on continue à réaliser les frottis. On va faire tout ce qui va être vaccination papillomavirus, la contraception au quotidien, les stérilets, les implants, les pilules, toutes les autres, le dépistage et le traitement des infections sexuellement transmissibles, c'est nous aussi. On fait des consultations préconceptionnelles, de la rééducation du périnée, évidemment des suivis de grossesse, des échographies si on a le diplôme, la préparation à l'accouchement, à l'allaitement, à la parentalité, les sujets à domicile, les retours anticipés qui ont été très sollicités avec les fermetures de maternité pour les conjoints à cause du Covid.
Oui.
On fait de la prévention des troubles psychiatriques, on fait de la santé publique puisqu'on dépiste aussi le diabète, on fait les vaccins pour la grippe, pour la coqueluche, pour le Covid, pour le papillomavirus.
Ah oui, c'est très très impressionnant. Alors, vous êtes combien?
Donc on est quand même très très loin de la sage-femme qui dit « poussez madame, poussez ».
Par exemple, dans votre cabinet, pour combien êtes-vous pour combien de personnes pour qu'on mesure l'ampleur du travail après ce que vous venez de nous décrire?
Alors les sages-femmes en libéral travaillent généralement seules en milieu rural.
Oui. C'est votre cas?
C'est mon cas.
Oui.
Et la population, ça va être, on va dire, par secteur. Hein. Les gens viennent, ils ont le libre choix du praticien. Mais j'ai certaines patientes qui peuvent faire 30 km pour venir me voir parce qu'elles n'ont personne d'autre. Et puis moi, quand je fais des domiciles, je peux être amenée dans une même journée à faire 50 km au nord et 30 km au sud, donc à couvrir un périmètre assez vaste.
Merci Clémence, merci pour votre témoignage. Caroline Combeau, on manque de sages-femmes à l'hôpital parce que le métier n'est pas attractif. C'est aussi ça qui est en jeu dans votre journée de mobilisation?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a ciblé notre communication sur l'hôpital, mais c'est un malaise qui est ressenti dans tous les champs d'exercice de la profession. Hein, on retrouve effectivement les sages-femmes en libéral, comme on vient de l'entendre, ce qui est une nouveauté en fait pour nous, puisque la profession avait quasiment disparu de nos campagnes pendant quelques décennies. Et là, à nouveau, effectivement, une des raisons, c'est la désertification médicale, enfin de médecins, mais aussi les fermetures de maternité. Donc les femmes ont vraiment besoin d'une offre de proximité pour pouvoir les accompagner. Il y a une réduction des séjours en maternité aussi, avec des relais très précoces à domicile, et on s'en réjouit. Donc ce sont des sources aussi d'économies hein, pour l'assurance maladie. Et donc en fait aussi comment les sages-femmes de PMI, les sages-femmes dans les hôpitaux privés, etc. C'est vraiment, oui, un mal-être et un manque de reconnaissance qui est ressenti par toutes les sages-femmes en regard de l'investissement professionnel et personnel que l'on y consent.
Et le manque de sages-femmes à l'hôpital, ça se traduit par quoi? J'ai pu lire en préparant cette émission le témoignage d'une sage-femme disant bah voilà, je m'occupe de 3 femmes en travail en même temps certains jours. C'est fréquent par exemple ce type de situation?
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'organisation à l'hôpital est gérée par des décrets qu'on appelle les décrets de périnatalité qui datent de 1998. En 1998, on était encore à 39 heures hebdomadaires de durée légale du travail. On a réduit donc la durée légale. On avait des compétences qui étaient beaucoup plus limitées. Donc depuis, Clémence l'a rappelé, on fait les prises en charge gynécologiques. On est amené à traiter aussi des urgences. Et donc dans nos salles d'accouchement, qu'on appelle salle de naissance, c'est en fait le service d'urgence de gynécologie et d'obstétrique. Et donc ce sont les sages-femmes qui sont amenées à accueillir toutes les femmes qui viennent y consulter, que ce soit pour y accoucher ou que ce soit pour un problème gynécologique. Et donc, en toute compétence et en pleine autonomie, les sages-femmes vont accompagner ces femmes. Et clairement, on n'est plus assez nombreuses parce qu'il y a des petites maternités aussi qui ont fermé et que finalement, ces activités de ces petites maternités se sont retrouvées recentrées dans des établissements qui ont vu exploser leur nombre de naissances, mais à effectif constant. Voilà, donc à l'heure actuelle, le sentiment ressenti par toutes les sages-femmes qui travaillent dans ces conditions, c'est un manque de sécurité, sécurité pour les femmes et les nouveau-nés qu'on va accompagner, mais sécurité aussi pour les sages-femmes. Et donc avec ce malaise et ces difficultés de travail au quotidien, eh ben on a une fuite. Effectivement, de sages-femmes qui vont soit choisir, pourquoi pas, d'exercer ailleurs, soit qui quittent la profession, et ça, c'est très nouveau pour nous.
Encore un témoignage, celui de Laure. Alors, après les sages-femmes, une patiente. Bonjour, Laure, soyez la bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous avez accouché pendant le confinement, pendant le Covid, en tout cas, la crise sanitaire.
Oui, tout à fait. Je voulais témoigner de mon expérience. J'ai accouché pendant la première vague de Covid, donc au printemps 2020 à Paris. C'était un moment où on a choisi d'isoler énormément les femmes pendant leur accouchement à l'hôpital. J'ai été quasiment seule pendant toute la durée de mon accouchement. Mon conjoint être à côté de moi. Ça a été vraiment extrêmement traumatisant. J'ai été extrêmement seule pendant des heures, complètement isolée dans une chambre. Enfin, c'était vraiment très, très violent. Et je voulais déjà dire ça, et dire que ça a été vraiment violent pour beaucoup de femmes, et je crois qu'on n'a pas fini d'en sentir les conséquences aujourd'hui, et dire que le suivi que j'ai eu avec la sage-femme de ville qui me suivait avant mon accouchement, quand je suis revenue à la maison, a été absolument essentiel pour m'aider à surmonter le traumatisme qu'a représenté ma prise en charge à l'hôpital. Qui accessoirement était l'hôpital Tenon.
Merci.
Dans la tourmente actuellement.
Merci Laure pour ce témoignage. Caroline Combeau, on arrive déjà au terme de ce moment. Une question sur la formation. J'ai une question, une remarque d'une sage-femme disant qu'elle avait abandonné, enfin d'une ancienne élève sage-femme, abandonné parce que la première année qui mélange avec médecine est trop dure. Ce que vous demandez aussi, c'est une formation plus longue, une année de plus dans la formation.
Oui, absolument. On en revient à ce besoin d'attractivité pour la profession, et donc ça commence par le recrutement initial. Ce qui est nouveau, c'est qu'on ne fait plus le plein dans nos écoles de sages-femmes. Hein. Il y a des places qui sont restées vacantes, et parce que ce sont des études qui sont très difficiles. Les étudiants sages-femmes ont démontré qu'elles faisaient en moyenne 1300 heures de formation de plus en 5 années que les dentistes et les pharmaciens en 6 ans. Donc elles demandent effectivement à lisser ce contenu sur 6 années, et ça a reçu un écho favorable de la part du gouvernement.
Pour un salaire en début de carrière de 1600 euros, hein, c'est ça à peu près?
Voilà, c'est ça. En général, elles commencent comme contractuelles et les contractuelles, qui représentent à peu près 20% des sages-femmes à l'hôpital, sont payées sur des grilles qui ne sont pas les grilles actuelles, qui sont très inférieures à leur niveau de formation.
Merci Caroline Combeau d'avoir participé à cette émission 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Des nouvelles de la femme deux fois reine de France ?
Anne de Bretagne qui est morte épuisée par ses grossesses.
Une nouvelle biographie, vous nous raconterez le feuilleton, quatrième portrait de nos cinq Français dans la campagne. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Un philosophe dans C'est une chanson aujourd'hui, Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Il participe à la semaine de la pop philosophie, festival qui se tiendra à partir de lundi à Marseille, sur le bien joli thème Constellation de la connerie.
Constellation avec un S, Bruno, car il existe différentes formes de conneries et une multitude d'approches pour les analyser.
Au 19e siècle, Flaubert aurait parlé de bêtises. Aujourd'hui, on dit conneries. C'est peut-être plus vaste. Il y a peut-être des différences entre les deux. C'est quoi la distinction? On va explorer ça pendant une semaine avec des archéologues, des préhistoriens, mais aussi des spécialistes des réseaux sociaux et des philosophes qui s'interrogent, oui, sur qu'est-ce que c'est que la connerie? Est-ce que la connerie n'est pas plutôt qu'un ennemi ou un adversaire, quelque chose qui côtoie la raison?
Vous, en tant que journaliste philosophant, c'est de cette manière-là, je crois, que vous aimez vous présenter. Est-ce que de temps en temps, vous vous sentez con?
Ah oui, on s'en rend compte parfois dans les questions qu'on pose comme journaliste, souvent, et comme philosophe aussi, on véhicule des clichés, et donc poser des bonnes questions, c'est évacuer les questions connes qui nous viennent spontanément.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Et c'est donc la voix de Michel Legrand que Martin Legros a choisi de nous faire écouter avec The Windmills of Your Mind. Ça, c'est le titre original.
Une chanson composée pour le film américain L'Affaire Thomas Crown, Oscar de la meilleure chanson originale en 1969, est devenue ensuite en français Les Moulins de mon cœur, chanson qui, pour Martin Legros, porte en elle un profond message philosophique.
C'est une chanson qui raconte comment est-ce que, à la fois, le dedans, le cœur, est un dehors, c'est-à-dire c'est la métaphore du moulin, et en même temps, la nature, au dehors, évoque cet amour que le narrateur retrouve dans tous les éléments. Donc c'est une exposition totalement échevelée du romantisme, et je crois que, philosophiquement, le romantisme n'est pas terminé, et que cette chanson nous dit qu'on a quelque chose à trouver dans la révolution romantique, c'est-à-dire on a retrouvé une sensibilité à ce que la phénoménologie appelait l'être au monde, à notre environnement. Le philosophe Adorno disait, pour savoir si tu es heureux, il suffit d'écouter le vent. Eh bien, dans The Windmill of My Mind, c'est à la fois le vent du moulin intérieur et le vent des éléments dehors. Et en tout cas, moi, quand j'écoute le moulin de mon cœur, c'est un vrai test pour savoir si le bonheur résonne ou pas.
C'est une chanson qui vous rend heureux ?
Oui, c'est une chanson qui me rend heureux. Il y a une formule d'ailleurs extraordinaire de Michel Legrand. Il disait « J'aime la vie, j'aime la musique, je suis infiniment, douloureusement heureux ». En réalité, dans la musique de Michel Legrand, je suis heureux, mais je suis douloureusement heureux.
Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie.
Il y a les moulins de mon cœur, il y a les ronds dans l'eau, plusieurs métaphores circulaires.
C'est vrai que tout tourne dans cette chanson. La leçon philosophique, c'est que la vie est un cercle. On tourne tout le temps autour des mêmes choses, mais simplement, elle évolue puisque progressivement, on découvre dans cette chanson que cet amour qui résonne circulairement partout, progressivement, il va apprendre qu'il va peut-être finir. Et donc, la leçon philosophique que je retiendrai, moi, c'est que dans ce parcours circulaire qu'est la vie, nous parvenons à y intégrer la possibilité de la perte, du deuil et de la mort. Et ça, c'est la sagesse.
Ça nous emmène loin, Michel Legrand.
Ça nous emmène loin, oui, oui. Bon, je délire peut-être, mais c'est ça aussi. Les chansons, c'est fait aussi pour se projeter dans des fantasmes.
Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Les moulins de mon cœur, Michel Legrand. C'était donc, Frédéric, le choix du journaliste et philosophe Martin Legros.
Rédacteur en chef de Philosophie Magazine qui participera la semaine prochaine à la semaine de la pop philosophie à partir de lundi prochain à Marseille.
À demain.
À demain.
Le feuilleton 5 Français dans la campagne, nous les suivrons régulièrement jusqu'en avril grâce au service politique de France Inter. Depuis lundi, nous avons fait connaissance avec trois. La quatrième aujourd'hui, Sylvana, coiffeuse à Avesnes-sur-Helpe, l'une des villes les plus pauvres de France, c'est près de Maubeuge dans le Nord. Elle a 51 ans, 4 enfants, elle a ouvert son salon il y a 3 ans. Elle n'a pas voté aux élections régionales et pour l'année prochaine, elle n'est pas encore décidée. Anne Souhaitemont est allée la voir dans son salon.
Ah, dis donc, c'est grand.
Très grand.
Donc, vous faites au rez-de-chaussée les femmes.
Oui.
Et au-dessus,
c'est les hommes. Et en fait, c'est là où je fais les barbes, en fait.
Ça marche?
C'est bien. J'ai une bonne clientèle, mais ça pourrait être mieux. Je veux dire, avec tout ce qu'on a subi, quand moi, j'ai ouvert, ils ont refait tout le centre-ville. Ça a été bloqué de part en part pendant 2 ans. Et en fait, le Covid est arrivé. Les travaux n'étaient pas encore terminés, quoi. On va se mettre peut-être ici un petit peu, comme ça vous allez m'expliquer ce que vous voulez.
D'accord. Vous avez un petit café pour vous?
Un petit café, quoi. Mais évidemment, madame, comme d'habitude. Elles sont bien accueillies, les clientes, hein. Vous avez vu?
Je vous ai vu pour la première fois il y a 4-5 mois.
Ouais.
C'était pendant la campagne des régionales.
Oui, c'est ça.
En tant que reporter politique, je suivais Marine Le Pen et... Elle venait soutenir le candidat, elle est rentrée dans votre salon. Vous en gardez quel souvenir?
Un très bon souvenir. Elle est arrivée comme ça, puisque je n'étais pas au courant, en fait. C'est toujours un honneur de voir des personnalités, en fait.
Alors, je crois me souvenir que vous nous aviez dit à ce moment-là que Xavier Bertrand était venu aussi dans votre salon quelques jours ou semaines plus tôt.
Je pense que ça devait être une semaine auparavant. Et en fait, en passant devant le salon, Monsieur Bertrand s'est arrêté. On a discuté et voilà, il est monté à l'étage. Il a fait une petite visite de courtoisie. C'était très sympa.
Vous lui avez pas fait la barbe ?
Non, peut-être une prochaine fois, pourquoi pas ? Parce que c'est vraiment un moment de détente pour ces messieurs.
Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire quand vous les voyez passer dans votre salon quelques minutes à ces femmes et hommes politiques ?
Ben qu'en fait, il serait peut-être temps de se pencher un petit peu sur nous, les commerçants qui travaillons d'arrache-pied, en fait. Quand on voit la vie, comment elle augmente, c'est compliqué. Moi, je pense que les 2 cm, on
pas peut plus.
Pas de soucis.
Vous, vous arrivez à vous payer à peu près combien?
Tout dépend. Ça peut être 1000, 1500. Ça dépend. Il y a des fois, j'ai rien. Parce qu'en fait, c'est le moment où les charges tombent. Donc, j'ai rien.
Est-ce que ça veut dire que vous compreniez ce mouvement des gilets jaunes qui a quand même marqué le quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Oui, je le comprends. Après, tout ce qui s'est passé à côté, ça, je le comprends pas. Puisqu'en fait, quand on défend un mouvement, on défend pas la violence.
Donc vous n'avez pas été sur les ronds-points ?
Ah, pas du tout. Pas du tout. Déjà, de une, j'avais pas le temps. Faut que je fasse tourner une entreprise.
Régional, je crois que vous n'avez pas voté.
Non, j'ai pas encore trouvé le candidat qui fait bouger les choses.
Est-ce que votre cœur bat un peu plus à gauche ou un peu plus à droite ? Est-ce que vous vous situez politiquement ?
Pas pour l'instant. Je les respecte, mais pas pour l'instant.
Vous les respectez tous ou bien, par exemple, sur Éric Zemmour, on en avait parlé, vous me disiez, en tant que fille d'immigrée, là, il y avait peut-être un bémol.
Sur Éric Zemmour, il y a des choses où ça peut être bien aussi, et sur d'autres où en fait, on va avoir un petit bémol en se disant, quand il a lâché le truc sur les prénoms, moi, je m'appelle Sylvana, quand nous, on était à l'école, on m'a appelée Sylviane, donc je reviens un petit peu en arrière.
Vous allez vous y intéresser à cette campagne qui démarre 7 mois de débats sur les radios,
oui.
Dans les pages des journaux ?
Oui, c'est intéressant. Aujourd'hui, j'ai complètement changé, donc j'ai grandi, j'ai vieilli, donc oui, c'est intéressant.
Vous attendez d'être convaincu ou vous pensez que vous pourriez rester abstentionniste aussi au scrutin présidentiel ?
Peut-être. Tout dépend s'il y a ce petit truc qui fait que.
Voilà pour cette première rencontre avec Sylvana. Dernier portrait demain, celui de Simon qui est chômeur et habite Colmar. Le feuilleton est réalisé comme chaque semaine par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Les rendez-vous de l'histoire de Blois se sont ouverts hier soir dans la ville au Château Royal. Cette année, le thème en est le travail, mais on s'intéresse évidemment aussi aux dernières publications historiques, notamment celle-ci, une biographie signée Joël Cornette d'Anne de Bretagne, morte en 1514 à Blois.
Deux fois reine de France par son mariage avec Charles VIII, puis avec Louis XII, elle a résidé les années du règne de son deuxième époux dans le château de Blois, belle, grand, fort et plantureux. Alors le personnage d'Anne de Bretagne demeure entouré d'une double mythologie. Elle aurait été la duchesse en sabots, à cause de sa proximité supposée avec le peuple, et de par sa farouche détermination à défendre l'indépendance de son duché de Bretagne, une héroïne de l'Armorique. Alors à l'étudier dans sa réalité, on comprend que l'histoire de la France aurait pu tourner autrement. Après tout, d'autres états que le royaume capétien étaient en gestation. La Bourgogne, bien sûr, le Bourbonnais aussi, et la Bretagne, évidemment. Le duché n'avait qu'un petit million d'habitants, mais il se présentait d'un seul tenant, et sa prospérité, fondée notamment sur la fortune de la toile, pouvait faire envie. Jean Kerhervé a bien montré qu'il s'est peu à peu doté des structures d'un état, chancellerie, conseil, parlement, trésorerie, chambre des comptes, et enfin, Anne a vécu dans une cour au château de Nantes qui aurait pu en remontrer à celle qu'elle connaîtra plus tard à Blois.
Alors, cher Breton, d'autres états que le royaume capétien étaient en gestation, mais ce sont les Capétiens, les Français, qui ont battu le duc François II, le père d'Anne, à Saint-Aubin-du-Cormier, 1488. Il est mort tout de suite après, laissant Anne 11 ans bien démunie.
Et contrainte en 1491, à 14 ans, d'épouser le roi de France, Charles VIII, mais Joël Cornette montre que dans le rapport de force avec la France, elle jouera de toutes les cartes qui pourront se présenter à elle. Ainsi, la mort prématurée de Charles VIII, dont la tête heurta malencontreusement un linteau de porte trop bas, en 1498, lui en redonna soudain, et rusée comme elle est, elle mena bien sa partie. Son premier époux lui avait tenu la bride en Bretagne, et elle obtint de son deuxième roi, Louis XII, de gouverner son duché à peu près à sa guise. Il est vrai que Louis XII, qui sera surnommé le père du peuple, était un roi tempéré.
Anne est donc morte en 1514, et si elle était morte plus tard?
Elle aurait tenté d'assurer l'avenir de son deuxième enfant avec Louis XII, auquel son contrat de mariage assurait l'héritage de la Bretagne. Elle s'appelait Renée, et s'avérera très douée, mais elle n'avait que 4 ans à la mort d'Anne. À lire Joël Cornette, l'événement décisif pour l'union de la France et de la Bretagne, ce n'est pas son premier mariage avec son premier roi, c'est son décès prématuré. Louis XII organise des obsèques d'une ampleur inouïe, les obsèques d'une femme aimée, mais les obsèques d'une reine de France, plus encore qu'une duchesse de Bretagne. Les cérémonies dureront 74 jours, 74 jours. Exposition du corps à découvert à Blois, puis à souveraine et notable princesse, faut-il pour jamais perdre la vue de votre noble face? Exposition du cercueil fermé. Au bout de 3 semaines, grand-messe. Et enfin, une procession de plusieurs milliers de personnes, une vraie ville ambulante, s'ébranle de Blois vers Paris. Alors nous sommes dans les frimas de février, les chemins sont boueux, incertains, mais on finit tout de même par parvenir à la capitale où un service grandiose a été préparé à Notre-Dame. Et enfin, c'est l'ultime étape à Saint-Denis. Un prédicateur dominicain accompagne de ses sermons ce grand charroiement. Anne étant morte à 37 ans, il célèbre en 37 éloges ses 37 vertus.
1514 donc, c'est un an avant le règne de François Ier, magnifique funérailles. Les Bretons auraient peut-être préféré que Louis XII y consacre moins d'argent et respecte le testament de son épouse.
Le testament, Bruno, où est-ce que vous avez vu un testament? Alors pour Joël Cornette, Anne en avait évidemment rédigé un pour faire valoir les droits de sa fille Renée. Eh bien, on n'en trouvera nulle trace. Faute de garçon survivant, Louis XII avait fait de François d'Angoulême, le futur François Ier, son héritier. Il l'a marié à la jeune Claude, l'aînée des filles qu'il eut d'Anne, et Renée s'en trouva éclipsée. Elle tentera plus tard de réclamer son dû, en vain, et François Ier aura eu le temps de siphonner la Bretagne, officiellement rattachée à la France, 1532. Mais Anne n'a pas fini de faire parler d'elle, parce que le livre que lui consacre Cornette, c'est peut-être le 50e, et on ne sache pas qu'il y en ait eu beaucoup sur Charles VIII et Louis XII.
Joël Cornet, Anne de Bretagne, s'est publié chez Gallimard et Intelligence Service. Samedi, ce sera à Blois, en public, en direct, amphithéâtre de l'abbé Grégoire à 18h. Merci, cher Jean Lebrun.